Quand il y a 100 ans, on n'a pas pu faire ça.
C'est ça le titre de notre podcast.
Ok. Bonjour tout le monde. Vous écoutez On n'est pas toutes les réponses, un podcast qui aborde le féminisme, notre quotidien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, nos réflexions, nos questionnements et nos rêves pour un monde meilleur. On n'a pas toutes les réponses est animé par Geneviève Latour, Nelly Denen, Philippe Levauquet et moi-même, Pauline Abel. Aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier et définir plusieurs idées entourant le féminisme. Nous sommes également très heureuses d'avoir une invitée spéciale aujourd'hui, qui va se présenter par la suite. C'est Lise Savoie, qui est professeure à l'Université de Moncton. Elle est présentement directrice de l'École de travail social. Ses champs de spécialisation sont la violence sexuelle, la pauvreté, les femmes et la santé, les femmes et l'éducation, les théories féministes et les politiques sociales. Bah, donc, avant de débuter le podcast, si ça vous tente qu'on se fasse un petit check-in et qu'on se demande comment ça va, est-ce que Geneviève, tu veux commencer? Comment oui. Ça va? Qu'est-ce qui se passe?
Ben moi, je dirais depuis l'enregistrement du dernier podcast, mais surtout comme dans les derniers mois, j'ai vraiment comme vécu un roller coaster d'émotions. Fait que vers la mi-avril, fin avril, Phil puis moi, Phil, on est dans un couple en passant. Phil et moi, on a appris qu'on était enceinte. Fait que là, c'était comme vraiment excitant, puis fun, puis des beaux moments. Vous donnez une mise en contexte, toi puis moi, on a fait 2 fausses couches dans la dernière année, fait que ça vient aussi avec du stress de, tu sais, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, puis qu'on va traverser, puis heureusement on était bien encadré, puis on a eu plusieurs ultrasons, fait qu'à chaque ultrason, c'est comme de voir le petit bébé qui grossit, puis qui bouge, puis entendre son petit cœur, fait que là, encore une fois, des hauts et des bas, mais en même temps, la grossesse, le premier trimestre c'était un peu difficile, là. J'étais beaucoup, beaucoup fatiguée, j'ai beaucoup dormi. Les nausées, vraiment pas beaucoup d'énergie, fait que c'est m'absenter du travail, puis quand tu te présentes au travail, la charge de travail qui t'attend, puis en même temps c'est le premier trimestre, fait que t'en parles pas trop aux partenaires, t'en parles pas trop à tes collègues, parce que, surtout dans mon cas où j'avais fait 2 fausses couches, là, fait que c'était...
Je sais pas quoi.
C'est ça, fait que ça apporte aussi un stress, puis ben je travaille dans le domaine sans but lucratif, fait que, puis de la violence faite aux femmes, fait que quand je m'absente du travail, il y a aussi, tu sais, je suis pas là pour soutenir mes collègues, puis ça leur donne une charge supplémentaire, fait que j'ai des super bonnes collègues, puis dès que je leur ai dit que j'étais enceinte, ils m'ont vraiment soutenue, mais je veux dire, il y a toujours cette petite culpabilité-là, là, je dirais, fait que ça a participé vraiment, mais là, le premier trimestre est fini, puis tout va bien, puis encore sur un high, là, je dirais. Puis l'autre aspect un petit peu qui se passe avec moi, c'est un peu en même temps qu'on a appris la grossesse, ma grand-mère a été hospitalisée. Fait qu'on savait pas trop ce qui se passait. Elle restait à l'hôpital quand même un petit bout. Puis finalement, elle a eu un diagnostic. Mais l'hôpital était quand même assez confiant, là, optimiste. Fait que là, c'était comme roller coaster d'être hospitalisée, mais finalement, tu sais, c'est optimiste. Retourner à la maison, a été vraiment beaucoup malade. Fait que là encore, comme, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on a découvert c'était une réaction à un médicament. Fait que là, les prochains traitements, c'est vraiment allé mieux. Puis elle a gagné de l'énergie. Mais là, j'étais à Ottawa il y a 2 semaines. Puis on a eu un diagnostic final, là, que c'est un cancer généralisé. Puis ma grand-mère ne sera plus avec nous pour très longtemps. Mais en même temps, j'ai eu la chance de la voir. Puis de lui annoncer qu'on était enceinte, fait que c'était un mix d'émotions, là, je dirais. Fait que c'est pas mal ça, mes derniers mois. Mais hier, j'ai reçu une photo de ma grand-mère, là, une étagère avec des photos de moi, puis mes soeurs, puis mon cousin, ma cousine. Puis elle a mis une petite photo de notre ultrason. C'est comme... Puis elle est vraiment contente, là. Ma grand-mère a toujours voulu être arrière-grand-mère. C'est comme... Moi puis mes soeurs, on avait vraiment hâte de lui apprendre. Mais on pensait pas que ça allait être dans des circonstances comme ça. Fait que... Ça, c'est mon petit check-in de roller coaster, émotion, des vraiment des émotions très, très, très positives, puis de la tristesse en même temps. Là, fait que...
Merci de partager ça, c'est pas possible.
Je demanderais à Phil comment ça va.
Ben, c'est sûr que je vis un peu les mêmes émotions que toi, mais beaucoup moins à cause des
évidemment, c'est pas moi qui porte l'enfant, puis c'est pas directement ma mémère, mais c'est un peu devenu ma mémère aussi, fait que ça, c'est vrai que ça a été des hauts et des bas, mais en même temps, on a aussi vécu un déménagement dernièrement, donc on est maintenant résident de la communauté de Rogersville, sur la Pleasant Ridge, donc on a reçu le super bel accueil à la fermeture partagée, je travaille là pour la saison. Fait que j'apprends des choses tous les jours, je travaille à l'extérieur, je travaille avec les animaux, on mange, on partage des repas toujours ensemble, il y a de l'aspect tout intergénérationnel, le petit aube de 2 mois, jusqu'à 2-3 mois, puis jusqu'à les grands-parents. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir cette perspective-là, puis en même temps des gens qui visitent la ferme, soit du Nouveau-Brunswick ou de différents pays. Donc, c'est vraiment... Jusqu'à date, ça se passe bien. Puis là, il fait beau, la chaleur est arrivée. Donc, les légumes devraient... Ouais, j'ai mon frère un stand. Oui. Vous pouvez pas le voir. Fait que, non, je suis vraiment choyé en ce moment, vraiment reconnaissant que tout se passe bien. Puis j'espère que ça va continuer. Check in.
Merci, Phil. Lely, peut-être? Qu'est-ce que... Comment ça va?
Ben, ça va mieux, je dirais. J'ai eu des moments un peu plus difficiles. Je suis tombée malade donc juste après l'enregistrement de notre premier épisode. Donc c'est pour ça là qu'il y a eu des délais aussi vis-à-vis de la sortie de ce premier épisode. On remercie d'ailleurs les personnes d'avoir patienté longtemps. Mais ça va vraiment, ça va beaucoup mieux. Il y a aussi une grosse période de travail qui vient de se terminer. Vous savez, je travaille au regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. On a tenu notre AGA hier, donc le 15 juin. Puis j'en sors, merci. J'en sors, c'est sûr, complètement épuisée, complètement vannée, parce que l'hiver et le printemps ont quand même été lourds pour moi. Mais j'en sors vraiment plus énergisée parce qu'il y a eu des positions incroyables. Il y a eu un atelier sur la mobilisation. Puis juste d'entendre tout le monde en parler. Puis prendre des positions, on dirait que ça m'a vraiment redonné ce petit oomph que j'avais besoin dans le milieu professionnel pour vraiment me dire, ok, tu sais, personnellement, j'ai été plus fatiguée, j'ai été plus malade, mais là, on repart avec une énergie renouvelée, fait que je trouvais ça bien. Puis en même temps, de hier, on a fait le lancement là, pour les gens qui étaient avec nous, puis ça aussi, ça m'a vraiment touchée. La réception, là, jusqu'à maintenant qu'on a du podcast, juste d'entendre les gens, puis de partager leurs impressions, mais en même temps d'embarquer vraiment dans la discussion, puis de nous partager comment eux-mêmes, personnellement, vivent les enjeux. Ouais. J'ai l'impression vraiment de retrouver une parole. C'est là où je me situe en ce moment. J'ai toute une réflexion sur ma propre parole. Quand on est dans des postes de représentation, parfois on a le sentiment de pas trop avoir cette parole-là. Puis j'ai l'impression de la retrouver, mais avec d'autres mondes, avec des personnes avec qui je peux réellement échanger. Fait que ça, c'est mon petit check-in. Puis, je commence aussi mes vacances officiellement aujourd'hui. J'ai quelques petits voyages de planifier avec ma sœur et ma mère, donc, puis des amis. Fait que ça va vraiment faire du bien de pouvoir aussi prendre soin de moi, faire un petit arrêt. Reconnecter avec des hobbies, puis un peu... continuer à travailler sur le podcast aussi, parce que j'adore ça. Fait que c'est ça pour mon check-in. Puis j'en profite pour saluer notre invité aujourd'hui. Donc on a Lise Savoie avec nous. Puis toi Lise, comment ça va?
Oh, ça va bien! Ça va bien, je vous écoute avec vos histoires. Je me disais, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Ça va bien. Ça va bien parce que, je sais pas, je trouve que il y a eu beaucoup de travail dans ma vie, mais je suis à une place maintenant, je me situe à un endroit qui me plaît beaucoup. Et je me sens vraiment privilégiée par la vie de faire ce que je fais, c'est-à-dire enseigner à l'université, réfléchir à la situation des femmes, pouvoir voyager, aller présenter je m'en vais au Liban, j'arrive de Vancouver, je pars au Liban. Je suis vraiment une femme privilégiée, je trouve. D'avoir cette possibilité-là de faire ce que je fais. Puis j'apprécie quand tu dis mon seul défi est de dire non à des projets parce que tu veux moins travailler ou tu veux travailler de façon, je dirais, professionnelle ou de donner ce que tu as à donner sais, si t'en prends trop, à un moment donné, tu peux pas aller de la même manière en profondeur, puis jamais aller en profondeur. Alors, ouais, c'est ça. Fait que je suis vraiment aussi très, très contente que vous m'accueillez dans votre groupe pour discuter. Je me considère pas comme une experte. J'ai juste réfléchi comme vous, de la même manière comme vous, en lisant, en discutant à la question féministe et théorie. J'ai la chance de l'enseigner. Alors, il y a certaines dimensions théoriques que je possède plus que d'autres. Mais, ouais, je suis vraiment contente d'être là. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment très, très apprécié.
Merci à vous d'être là. Je préfère manger qu'une autre. Ben oui, ça va. Moi, depuis le dernier podcast... En fait, je pourrais peut-être parler de ça aussi, puis j'avais aussi des petites nouvelles de l'actualité qui m'avaient marquée, mais je me suis remis en question. J'ai une petite crise de féministe, peut-être au mois d'avril, mai, là, où j'étais confrontée à certaines personnes qui avaient beaucoup d'arguments qui remettaient en question plein de recherches féministes, en fait. Puis je les ai pris au pied de la lettre, en fait. Je me suis dit, ok, si ça se trouve... cette personne a raison, tu sais. Puis donc j'étais vraiment en recherche, à tout vérifier, les sources et tout. Enfin, j'ai eu comme un ok, est-ce que je suis... Vous savez, quand on pense à ceux qui pensent que la Terre est plate, hein, ils y croient vraiment.
Conspiration.
C'est ça, conspiration. Ouais. Ben, je me suis dit, est-ce que je suis pareil avec le féminisme ou quelque chose? Vraiment, j'allais loin là. J'allais loin dans la remise en question là. C'était fou, mais je crois que ça m'a fait vraiment du bien finalement. C'était horrible sur le coup parce que ça fait partie de mon identité aussi. Puis j'ai étudié là-dedans aussi, puis je sais pas si c'était des personnes qu'on connaît souvent qui te remettent le plus en question là. Et donc ça c'était dur, je trouvais. J'ai partagé avec Nelly aussi là. J'ai eu vraiment un moment de ok, fallait que je vérifie tout ce que j'avais appris avec le féminisme. Puis finalement, je suis contente parce que ça va, c'est pas une conspiration, c'est sûr. Puis donc ça m'a permis de finalement de rechecker tout ça. Puis je me suis posé aussi plein de questions sur comment on communique ça. Comment est-ce que c'était un homme aussi qui m'a confrontée à ça. Puis je me suis demandé, ok, comment est-ce que je peux accepter que, que les gens ne soient pas du tout convaincus. Je sais que ces personnes-là remettaient en cause de la culture du viol, par exemple. Puis j'étais là, ok, comment est-ce qu'on fait pour... Puis après, c'était parti dans la sémantique. Je me dis, culture du viol, pourquoi vous dites ça? C'est pas vrai, les lois protègent les femmes quand même. Je fais oui, mais ça va plus loin que ça et tout. Puis, en tout cas, je me suis confrontée à plein de trucs, comme les chiffres qu'on entend souvent, une femme sur cinq est agressée. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. Une femme sur cinq a reçu des violences verbales ou physiques et tout. Puis ça, il me titille avec cette source-là. Ok, mais elle est où cette source? Puis moi, dans ma tête, je dis ok, c'est vrai, je l'ai entendue, mais où est-ce que je l'ai trouvée? Elle est partout, mais elle est sur le site de l'ONU, elle est sur le site des regroupements féministes, sur le site des
recherches.
Ouais, mais alors apparemment, c'était pas une recherche assez scientifique pour cette personne.
Ben, plus, on aurait sorti la recherche pour exposer ce chiffre-là.
Mais c'est que des trucs comme ça, puis ça m'a énormément drainée. Puis je mets pas la faute sur cette personne non plus là. C'était, je pense que j'avais besoin peut-être aussi de ça, de ok, là, prends confiance en toi là. Puis donc c'était top, là. Puis c'est drôle, c'est bizarre, on vient émotionnel devant un podcast, c'était juste après le premier podcast.
Ouais.
En fait.
Ouais.
Donc voilà. Ouais. Puis sinon, je voulais parler des petits sujets qui m'avaient marqué au niveau international, national et local. Puis en fait, avec ma job, je fais partie de plein de CA, puis je donnais à des réunions. Et la GA de l'Association des artistes professionnels de Nouveau-Brunswick, donc la APNB, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ils ont adopté à leur Assemblée Générale annuelle une politique anti-harcèlement. Puis ça, c'est vraiment cool parce que j'avais pris des notes... c'est ça, une politique contre le harcèlement sexuel. Donc ils se sont vraiment réunis, là, le CA, puis les artistes, les travailleurs autour de ça. Puis ils ont été chercher plein de ressources qui existent déjà, parce que le Conseil des arts du Canada va, je crois, dans les prochaines années, obliger que si tu fais une demande de subvention, faut que tu aies une politique contre le harcèlement sexuel. Donc moi, je trouve ça vraiment cool, puis de le souligner, en tout cas, ça se passe ici. Féminisme avec un S.
Un mouvement social qui lutte pour l'atteinte de l'égalité entre les genres. Certaines autrices emploient le terme féminisme avec un S afin de reconnaître les différentes vagues et courants qui traversent ce mouvement. Notre premier segment pour le podcast d'aujourd'hui se penchera sur quatre courants du féminisme. Bien qu'il y ait bien plus que quatre courants féministes, nous pensons que les courants que nous avons choisis offrent un bon aperçu du sujet. Donc de plus, on croit important de souligner que la définition que vous venez d'entendre, donc sur le féminisme, n'est qu'une définition de 10 secondes. Il y en a évidemment beaucoup plus à dire pour définir ce terme. Donc, afin de lancer le premier sujet, Lise, est-ce que tu pourrais nous partager comment tu t'y prends dans tes cours sur le féminisme pour définir ce terme auprès de tes étudiantes et étudiants?
Oui, c'est une bonne question. Premièrement, peut-être que je peux vous dire que dans les cours, c'est surtout le cours Femmes et changement social que j'enseigne toutes les perspectives féministes. Et j'ai un cours à la maîtrise Féminisme et travail social. Alors, à la maîtrise, c'est plus avancé. Au bac, c'est un cours de quand même de quatrième année, mais souvent c'est la première fois que les étudiants sont confrontés à la théorie, des situations, à des même au mot féministe, puis au mot auquel ils ont peur, qui fait peur, un mot qui fait peur. Je dirais dans les dernières années, je sens moins cette peur-là que je sentais il y a peut-être, je sais pas, 8 ans, 10 ans là. Je me souviens plus depuis quand j'enseigne ce cours-là, mais j'ai toujours l'impression qu'il faut d'abord que je les rassure pour que je ne veux pas les transformer, que je ne veux pas changer leurs idées, mais qu'on va discuter des théories de féministes, comme on discute de d'autres types de théories en travail social, puis là j'en nomme d'autres. Donc j'aborde ça de cette manière-là. Pour pas leur faire peur, pour pas leur parce que pour essayer d'atténuer leur résistance, parce qu'il y a de la résistance.
Qu'est-ce qu'ils disent quand tu sens la résistance?
Ben, je suis pas féministe, une chance que le cours est obligatoire, sinon je serais pas ici. C'est ça. Ça c'est les deux. Puis je serais jamais féministe. Puis l'égalité est à terre. C'est oui, très rapidement. Très rapidement. Puis, une chance que le cours est obligatoire, ça je l'entends.
Je me souviens l'avoir entendu.
Entendu, c'est ça. Sinon, je serais pas là. J'ai trouvé une façon, c'est drôle, hein. Je leur montre un film, dès le départ, soit le deuxième ou le troisième cours. Sur le droit de vote des femmes. Ça dure tout le cours. C'est quasiment 2 heures de film, là, ouais, sur les revendications des féministes américaines. Puis c'est un film qui est très, très lié à l'histoire, mais qui a aussi beaucoup d'émotions. Alors, après ce film-là, je sens que je les ai. OK, les femmes ont dû se battre pour avoir là, pour voter. Ils comprennent ce principe-là. Puis là, j'ai beaucoup plus d'écoute après. Ça fonctionne.
C'est quoi ce film?
C'est Vote for Women. J'ai oublié le titre exact.
On le mettra.
Ouais, oui. Okay. Puis, moi, je le trouve vraiment bon, là. Puis, il est vraiment lié c'est vraiment des éléments historiques. C'est vraiment fort. Puis, c'est vraiment les féministes de l'époque qui revendiquaient ce droit-là. Puis, les luttes qu'elles ont menées avec la classe bourgeoise, la classe ouvrière.
Puis ça expose vraiment bien. Pour la petite histoire, j'ai eu le privilège d'enseigner le cours dans Lise parle l'année passée. Là. Et c'est vrai que les étudiants et étudiantes étaient. Ça leur fait réaliser qu'il y a une scène particulière où tu vois vraiment l'affrontement entre différentes féministes aussi. Ah. Parce que les mobilisations et les façons de revendiquer ne sont pas les mêmes nécessairement de certaines féministes à d'autres. Puis il y a une scène particulière de gavage, parce qu'elles ont milité pour le droit de vote, parce qu'elles ont mobilisé, elles ont fait de l'action directe au final, donc elles ont vraiment bloqué une rue, donc le fameux règlement qui encore aujourd'hui prévaut pour arrêter des gens. Quand on dit que tu contreviens à la circulation, dans le fond, ou à la bonne circulation du passage, puis vu qu'elles piquetaient, elles se sont fait enfermer pour ça. Donc, on les a vraiment toutes arrêtées. Puis, il y a une scène à un moment donné où elles rentrent dans une grève de la faim pour vraiment protester contre le fait que c'est une arrestation complètement politique. Puis la scène de gavage est incroyable parce que tu vois, c'est la manière dont c'est tourné, la manière
de gavage.
Oui,
c'était pas
penser aux oies qu'on gave.
Quand des personnes font une grève de la faim pour forcer la réalimentation, on leur insère un tuyau de force directement dans l'estomac pour faire en sorte que la nourriture puis le liquide passent directement.
Ça mélange plus.
C'est un mélange de
C'est violent, c'est une violence
sidérante. Franchement, c'est d'une violence. Puis la scène est violente. Puis quand tu réalises que ça se passe, parce qu'elle milite pour le droit de vote, parce qu'elle milite pour atteindre un droit, c'est fascinant. Petite parenthèse.
C'est ça. Donc ça change. Puis ensuite, ben, j'amène les différents courants, les différentes. Puis j'essaie de toujours amener ça avec des exemples de lutte qui sont menées présentement, l'équité salariale, par exemple, ou d'autres luttes, la violence, par exemple, envers les femmes. Puis tout le long du cours, je vais passer les théories de cette manière-là à travers des enjeux qui touchent les femmes.
Moi, pour avoir étudié en travail social, j'ai jamais suivi un cours avec Lise, mais de voir aussi les étudiantes, à la fin du cours, comme il y en a beaucoup qui vont dire que c'est leur cours préféré de tout leur parcours en travail social. Puis une fois qu'ils ont gradué, ça a été le cours qui les a marqués, les projets où ils ont le plus appris. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir toute la résistance au début du cours, puis vraiment de prendre le temps d'accompagner les gens là-dedans. Puis d'après moi, ça, bien évidemment, ça forme des meilleurs travailleurs sociaux. Puis ce point de vue systémique-là qui... Tu sais, il est quand même enseigné dans d'autres cours, mais je pense que c'est là où il capte le plus.
Combien de fois on a entendu des jeunes féministes dire « Moi, c'est le cours à Lise. C'est pour ça que je suis engagée, c'est le cours à Lise. » Tu marques l'enseignement, la manière dont tu les accompagnes, la pédagogie en arrière du cours aussi.
Vous avez des frissons.
Je sais.
Je pense que c'est parce qu'il a été offert par d'autres avant moi. Puis ça fonctionnait pas, ça fonctionnait juste pas. Puis j'ai voulu essayer d'y donner, de pas confronter. Faut pas que ce soit... Puis quand tu confrontes pas, tranquillement, je les amène à réfléchir autrement. Mais c'est vraiment par la main, tranquillement. Puis,
c'est l'éducation.
Puis ça fonctionne. Puis quand j'ai réalisé que ça fonctionnait, c'est dans une réunion annuelle du regroupement féministe à Fredericton, puis que... il y avait peut-être 10, 12 jeunes femmes là qui étaient là, puis qui participaient au mouvement féministe, qui étaient mes anciennes étudiantes. C'est pas juste moi, là, je comprends, mais ça m'a vraiment fait... j'ai vu d'où ils partaient, ces personnes-là, puis elles étaient là en train de revendiquer, puis militer pour la situation des femmes. Ça, je trouvais ça vraiment pertinent. Puis...
Tu fais partie de leur déclic. Dans le premier épisode, on en parlait d'avoir du... C'est quand tu as toujours été privilégié, des fois, tu peux juste nier les oppressions. Puis... Donc, c'est intéressant ce que tu dis, de voir que...
C'est des femmes aussi universitaires qui ont fait faire... C'était en moi, là. Parce que j'étais monoparentale... J'ai eu un enfant de 18 ans, donc très jeune. J'ai vécu la situation de pauvreté. Je suis retournée aux études avec mon petit garçon sous le bras quand il avait 4 ans. Donc, j'ai vécu des situations qui m'ont fait en sorte que je suis devenue féministe. Je le dis déjà, mais c'est des femmes universitaires aussi qui m'ont donné des mots à mon vécu, là, qui m'ont permis d'exprimer ce vécu-là. Il n'y a pas eu un mouvement ici aussi fort. Le mouvement féministe était surtout un mouvement philanthropique. C'était les dames d'Acadie, ensuite les femmes francophones du Nouveau-Brunswick. Quand ça s'est transformé en regroupement féministe, là, on a vu un changement beaucoup plus militant et politique, un tournant. Puis c'est ce qu'on voulait, parce que, comme moi, par exemple, je ne me retrouvais pas dans les dames d'Acadie ou dans les femmes francophones, parce qu'il n'y avait pas assez d'enjeux militants et politiques. Ils en faisaient, mais c'était plus des féministes libérales. On va
faire une belle transition différents courants.
Merci.
Est-ce que Geneviève, tu veux peut-être commencer par un premier courant, justement on parlera des féministes libérales, mais je sais que toi, tu étais intéressée par les courants radicaux.
Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant parce qu'au lancement, on a parlé un petit peu de radicalisation. Puis pour moi, c'est important de parler de féministes radicales parce que premièrement, si je peux définir le mot radical,
complètement.
Dans le fond, comme l'étymologie radicale, ça vient du terme racine, fait que c'est d'aller à la racine, à la source. Il y en a beaucoup qui vont confondre le mot radical avec extrémisme. Mais pourtant, pour moi, le féminisme radical, c'est ça, c'est d'aller à la source, d'aller à la racine. Donc, c'est un mouvement qui a surtout émergé, on dit, là, dans la fin des années 60. Puis, ça pose vraiment les femmes comme une classe politique qui est dominée par la classe des hommes. Puis qui, dans ce temps-là, surtout qui va définir les rapports de sexe comme des rapports de pouvoir. Fait que c'est plus que de dire « changeons les lois puis ça va bien aller », mais c'est comme « non, en fait, il y a un système d'oppression. Mm-hmm. » Ce système d'oppression-là, son nom, c'est le patriarcat. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'il faut démanteler. On pourra pas, c'est pas à coup de changement de loi qu'on va atteindre l'égalité. Fait que vraiment, je pense d'autres exemples, il parlait vraiment comme des mécanismes ou des institutions qui gardent les femmes dans ces rapports de pouvoir-là. Il dénonçait le mariage, la maternité, l'Église, par exemple. Puis c'est surtout le mouvement radical, un terme qu'on entend souvent, c'est le privé et politique. Puis c'est ça, c'est de dire ce qu'on fait dans le privé, ça a un impact au niveau politique. Puis évidemment, ce qu'on fait au politique a un impact dans le privé, mais le contraire est vrai aussi. Fait que quand on parle de violence conjugale, de viol, d'harcèlement sexuel, d'avortement, santé des femmes, c'est des choses qu'on vit au privé, mais il faut lutter, puis ces luttes-là qu'on mène, ben ça a un impact au politique. Puis moi, je me retrouve là-dedans, j'œuvre beaucoup, comme j'ai dit, là dans le domaine de la violence faite aux femmes, puis c'est pas tu sais, je suis très consciente que c'est pas en ayant une maison d'hébergement pour les victimes, les survivantes, qu'on va enrayer la violence. C'est pas en faisant de l'éducation dans les écoles qu'on va enrayer la violence. Ça aide. Il faut ces programmes-là, j'y crois entièrement. Mais il faut démanteler le patriarcat. C'est ça la source du problème, tu sais.
Puis comment... Des exemples de comment démanteler ce patriarcat?
Je pense que c'est ça qui est le plus difficile au niveau de l'éducation. C'est comme le patriarcat, c'est quoi cette chose-là, cette affaire-là? Hein? C'est comme un mot, mais en même temps, ça a tellement de répercussions partout. Puis, t'as mentionné comme au niveau du système économique, les valeurs d'une société, la culture. Puis, c'est vraiment comme répandu, mais de façon qu'on s'en rend même plus compte à un moment donné. Puis, c'est là que ça devient vraiment dangereux.
Peut-être Lise pourra enchaîner, mais je sais qu'au niveau des violences à caractère sexuel. Tu sais, quand on parle de culture du viol, ben, c'est de mettre un mot. Puis, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut, c'est la culture du consentement. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, c'est pas de changer des lois, c'est de changer les normes sociales.
Exactement.
Puis, quand on parle comme, de l'approche du bystander, c'est de dire, comme, toi, t'as un rôle. Puis, quand t'es pas en train de dénoncer la violence potentielle qui pourrait se passer ou qui est en train de se passer, t'es complice.
Mm-hmm. Oui.
Puis, il y a différentes façons, tu sais, on pourrait y revenir, mais je pense que c'est ça, c'est de dire, il faut changer les normes sociales. Mmh. Ça se fait à travers l'éducation, mais c'est pas juste bat pas sa femme ou viole pas ta conjointe. C'est comme, ça va plus que ça.
Ouais, c'est dans les rapports. C'est dans les rapports sociaux. Okay. Comment on peut, dans les rapports sociaux, éliminer la question de pouvoir? Et certains diront que c'est impossible qu'on élimine la question de pouvoir, mais comment on peut faire en sorte que ces rapports-là soient plus respectueux et plus égalitaires? Et je pense que c'est de penser que tout est réglé. C'est, la violence sexuelle, moi, c'est l'exemple parfait, là, parce que quand on en parle, que ce soit dans des conférences publiques, pas universitaires ou même universitaires, des gens qui sont pas vraiment... qui réfléchissent pas au phénomène, sont toujours surpris par l'ampleur du phénomène, comme si ça n'existait pas. Ça me ramène toujours aux années 70 qu'on a commencé à parler de la violence familiale. Ça n'existait pas. Mais la violence conjugale, ça n'existe pas. Puis là, ça se traduit par bon, on ne sera plus capable de séduire une femme. Ah, on ne sera plus capable d'approcher une femme sans se faire traiter de violeur ou d'agresseur. C'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. C'est d'être capable de... Oui, la séduction, c'est intéressant, puis ça existe, mais puis ça se passe dans une réciprocité.
Mais je pense que c'est ça qui est intéressant avec radical, c'est que on a tellement mis ce mot-là, puis tu le disais très bien au début, comme étant synonyme d'extrémisme, qu'on n'a pas réalisé à quel point la notion de radical nous ramène à changer la façon dont on fonctionne aussi. C'est accepter que, effectivement, il y a des oppressions, il y a des inégalités, notre monde ne fonctionne pas ou fonctionne au détriment de personnes, se fait sur le dos de personnes marginalisées. Puis je pense que elle est là, la radicalité. La réelle radicalité, c'est de pouvoir se permettre de changer les choses, puis d'accepter de faire les choses autrement, d'être autrement, de changer nos cultures, de changer nos normes sociales, de réaliser que pendant des siècles, on a fonctionné au détriment de plusieurs personnes qui n'avaient pas accès à un espace public, qui n'avaient pas un accès à la politique, qui n'avaient pas un accès au simple... On parlait de pauvreté des femmes ou de la pauvreté de manière générale. Quand on réalise ça, ça mérite des solutions radicales. On ne peut pas mettre, on peut pas continuer à mettre des pansements sur des problèmes aussi dramatiques au final.
Et ce sont les positions radicales qui ont permis que les choses changent.
Voilà.
Surtout, plus, ouais. Sans ce courant-là, je sais pas où on serait, parce que justement, ils ont visé un système et ils ont développé une pensée beaucoup plus systémique. Puis le courant radical se divise souvent en différents courants aussi, là, mais on va parler du courant lesbien tantôt, il y en a qui vont le mettre dans le courant radical et tout ça, mais c'est un courant, c'est ça, qui a permis de beaucoup plus... la question des femmes, par exemple, de la violence, comme tu disais tantôt, c'est ce courant-là qui a fait en sorte que, justement, qui a fait reconnaître que la violence conjugale était un problème public, non un problème privé.
Donc, refuser la violence, c'est être radical, finalement.
Mais c'est plus que refuser la violence, c'est de reconnaître d'où, c'est quoi la source
du problème.
Fait que c'est de dire, il ne faut pas juste demander aux gars de ne pas être violents, comme c'est de comprendre aussi que les hommes... Il y a une raison pourquoi la violence peut être une façon de s'exprimer, c'est parce que ça a été socialisé, tu sais. Fait que de leur dire de ne pas être violent, c'est pas assez, là. Faut aller à la source.
C'est ça.
J'ai eu une autre idée, un autre exemple, je pense, que je suis en train de vivre en ce moment, mais c'est au niveau de la maternité. Il y a eu vraiment beaucoup de progrès au niveau de la maternité, au niveau du travail. Congé de maternité, congé parental, par exemple. Mais ça, on pourrait attribuer ça au féminisme libéral. Je sais qu'on l'a pas encore défini, là. C'est des avancements au niveau de la loi qui a fait en sorte qu'on a protégé les femmes qui ont du temps pour passer avec leurs enfants, etc. Mais c'est des accommodements. C'est des accommodements. On n'a pas repensé le monde du travail. Pour le default, c'est encore un homme qui n'a pas besoin d'accommodement parce qu'il va... Je ne voudrais pas dire un homme, je voudrais une personne sans utérus qui ne va pas, qui va pas être enceinte et qui n'aura pas besoin. Puis si oui, ben on lui donne un congé parental. Mais c'est pas... Je veux dire, moi, j'ai expliqué, j'ai eu des nausées, j'ai été super fatiguée. Le travail, comme la façon qu'il est développé en ce moment, il n'est pas fait pour une femme enceinte. Radical, ça serait de repenser le travail en invitant des... Puis là, je veux pas... au niveau radical, ça serait d'inviter des femmes, des hommes, des personnes trans, d'en parler. On va parler plus tard, il y a aussi d'autres types de pressions qu'il va falloir prendre en compte, là, mais pour repenser ce travail-là, c'est pas des accommodements qu'on a besoin, c'est... de penser différemment, tu sais, fait que je pense au niveau de la maternité, puis ça se fait, il y a plein de gens qui ont imaginé comment est-ce qu'on peut, est-ce que ça a besoin d'être du 9 à 5, est-ce qu'on a besoin de faire du 35, 40 heures par semaine, etc., etc., fait que de passer de accommodement à vraiment que les femmes soient à table pour définir comment le système fonctionne.
Puis c'est ce qui est considéré comme du travail, à la base, parce que moi ce qui m'a frappé le plus, c'est ce qu'on appelle le travail invisible, on considère que c'est pas vraiment du travail de prendre soin des proches, des enfants, de prendre soin des gens de notre communauté, tout ce qui est le care, qui est très drainant comme émotionnellement, physiquement. Puis ça, on a comme au fil des années, on a comme appris à, on a été socialisés pour se dire, ça c'est normal que les femmes s'occupent de ça. Puis pendant ce temps-là, les hommes vont à l'usine, les hommes vont dans leur tour à bureau, ils reviennent à 5 heures, puis le souper, c'est à la table. Puis on a comme... Mais c'est grâce justement à la radicalité de... OK, on peut-tu comme juste se poser la question, c'est quoi le travail? Qu'est-ce qui est considéré comme du travail? Puis je trouve que ça, c'est un exemple qui vient beaucoup me chercher.
Super intéressant. Lise, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être avant qu'on passe au prochain courant?
Non, mais ça me touche beaucoup, la question de la visibilisation du travail des femmes, parce que ça a un impact partout, hein. Ça a un impact sur leur rémunération, sur leur style de vie, sur leur pauvreté, sur le... Puis, mais ce que je voulais dire aussi tantôt, quand vous parliez du marché du travail, puis de changer un système, c'est aussi que le système s'adapte aux hommes qui veulent... profiter de la maternité, de la paternité. Bon, les hommes se retrouvent souvent dans des professions plutôt libérales, dans les banques et tout ça, tu sais, dans les, où est-ce qui est beaucoup plus masculine, là, des professions plus masculines, où est-ce que ça, c'est pas valorisé, puis ils prendront jamais souvent l'option de prendre des congés de maternité ou s'occuper de leur enfant parce qu'ils vont perdre. Mm-hmm. Donc, c'est changer tout un système. Mm-hmm. C'est ça, changer tout un système. Mm-hmm. Changer pour les femmes, mais pour la famille, pour les... Puis moi, c'est toujours ce que je dis à mes étudiants, quand les femmes font un avancement, ça aide tout le monde. Mm-hmm. Ça aide le système, ça aide les hommes, ça aide les, tout le monde est gagnant. Mm-hmm.
Nali, est-ce que tu veux parler du courant qui t'intéresse? Enfin, tout du courant t'intéresse, tu me dis. Parle-nous de ton courant.
Le courant que je présente aujourd'hui, c'est celui du féminisme intersectionnel. Donc, c'est un mot qu'on entend quand même de plus en plus souvent, je pense. Ceci étant dit, j'ai l'impression que c'est un très long mot, là, on s'entend. Il n'y a pas plus jargon féministe, je trouve. Que quand on se dit ça c'est l'intersectionnalité, puis on perd trois quarts de notre auditoire parce qu'au final c'est mais c'est quoi ce long mot, qu'est-ce que tu veux dire? Donc l'intersectionnalité, comment on peut le définir? Ben, c'est vraiment la situation des personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. C'est vraiment un terme qui a été élaboré par une penseure, elle s'appelle Kimberly Crenshaw. Elle a vraiment mis le terme de l'avant dans les années 90. Puis, ce que je trouve particulièrement intéressant quand on parle d'intersectionnalité, c'est que parfois on a l'impression que c'est tout nouveau, que ça, c'est vraiment, c'est un nouveau féminisme. Mais en réalité, c'est vraiment venu beaucoup plus loin que ça. Donc, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent autour de la table, vous avez déjà entendu parler de Sojourner Truth. Donc, elle, c'était une esclave qui était abolitionniste, une esclave noire. Et c'est la première qui a dit « Ne suis-je pas une femme ?» Donc « Ain't I'm a woman ?» qui rappelle un livre donc de Bell Hooks qui, elle aussi, théorise le fait que quand on est une femme noire, on n'est pas seulement une femme, mais on n'est pas seulement noire. On est vraiment comme toutes ces identités, puis qu'on ne peut pas séparer, on parlait de système, on ne peut pas séparer les systèmes d'oppression. Donc on vit du racisme, mais on vit aussi du sexisme. Puis parfois, on peut vivre aussi de l'homophobie, parce que il y a aussi tout un mouvement là dans les années 70-80 qui s'appelait le Combahee River Collective, qui était des femmes lesbiennes noires et qui sont les premières vraiment à dire en fait vous pouvez pas nous dire qu'on est soit des noirs ou des femmes, on est les deux, parce que on vit de l'oppression de la part des blancs, mais on vit aussi de l'oppression de la part des hommes noirs. Donc je trouve ça important de faire ce retour là parce que j'ai l'impression que parfois, intersectionnalité, tu sais, je le répète, là, c'est genre, classe aussi, parce que la classe a à voir dedans, puis c'est aussi race, puis on ne peut pas séparer ça. Donc, quand on revient là à la genèse de comment l'intersectionnalité, on voit bien que la donnée race est importante quand on pense à l'intersectionnalité. Puis parfois, on confond intersectionnalité puis intersectorialité, donc on parle des secteurs. Mais c'est pas la même chose. Les secteurs, c'est autre chose. Là, on parle vraiment là d'identité. Et c'est puis j'avais un petit morceau là de la déclaration justement du Combahee River Collective parce que je pense qu'elle l'explique très bien. Donc, je cite :« Nous sommes activement engagés dans la lutte contre l'oppression raciste, sexuelle, hétérosexuelle et de classe, et nous nous donnons pour tâche particulière de développer une analyse et une pratique intégrée basée sur les faits que les principaux systèmes d'oppression sont imbriqués. » Et que je pense que ça, puis il ne faut pas l'oublier, là, ces femmes, c'était des militantes. Là, elles n'ont pas théorisé ça à l'université. Elles vivaient intrinsèquement ce qu'elles écrivaient. Donc, moi, c'est un petit texte que j'aime beaucoup rappeler parce que je crois que c'est important. Donc, voilà pour le féminisme intersectionnel.
Lise, est-ce que tu...
Oui, c'est intéressant parce que c'est un mot qui est devenu comme à la mode.
Ouais.
Quand on l'utilise, il faut savoir que c'est des systèmes d'oppression qui touchent des identités, bien entendu, mais c'est des systèmes d'oppression qui se co-construisent.
Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Quand je parlais des failles au niveau du féminisme radical, c'était un peu « éliminons le patriarcat et nous allons éliminer tout rapport de pouvoir ». Puis il y a eu le féministe lesbien qui cognait à la porte, qui disait « oubliez-nous pas, là, l'homophobie, c'est super ». C'est comme « inquiétez-vous pas, quand il n'y aura plus de patriarcat, il n'y en aurait plus d'homophobie. Puis je pense que c'est aussi peut-être... Moi, je me suis souvent identifiée comme une féministe marxiste, de dire on ne peut pas que penser au patriarcat, mais il faut aussi penser au capitalisme. Puis pour moi, c'était pas assez important, c'était pas assez fort de dire je suis anticapitaliste, comme il fallait que je propose quelque chose. Il y a des féministes anarchistes aussi. Moi, j'avais... En tout cas, dans mon cheminement, c'était vraiment féministe marxiste. Mais là aussi, je veux dire, si on regarde dans l'histoire... par exemple, sans rentrer trop en détail, mais l'URSS, les femmes étaient vraiment incluses dans la révolution, puis de se dire abolitionnons, on va abolir le capitalisme, puis on aura l'égalité. Puis pourtant, le patriarcat est demeuré. Puis quand Lise disait que c'est des systèmes qui se co-construisent, mais ils sont indépendants aussi. Fait qu'on peut pas croire, on peut pas dire abolition, on va abolir le capitalisme, le reste va tomber. Non, le patriarcat, il va survivre. Il est nourri par le capitalisme, il est nourri par la suprématie blanche, il est nourri par l'homophobie, mais il va demeurer. La même chose, si on abolit le capitalisme, la suprématie blanche, elle va rester. Fait que c'est vraiment, il y a souvent eu dans les courants féministes une hiérarchisation des luttes. Puis là, je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre la parole, mais plus tard, Lise, moi, je serais intéressée de voir quand même en Acadie le fait que les féministes acadiennes, c'était le patriarcat, mais la langue a dû jouer un rôle aussi. Fait que je sais pas si tu peux y penser, là, puis quelqu'un d'autre peut prendre la parole, mais si ça l'a... Tu sais, je sais pas si on... Je pense pas qu'on peut parler de féminisme intersectionnel, mais même au niveau de la classe, on sait que les familles acadiennes étaient souvent des familles plus démunies, puis de la classe populaire. Fait que moi, je serais intéressée... Tu sais, on a une histoire en Acadie féministe, puis il faut la connaître.
Moi, là-dessus, j'avais fait une présentation justement sur l'intersectionnalité qui incluait, c'est pour le Conseil des femmes. Le Conseil des femmes avait demandé de présenter sur l'intersectionnalité. Puis, plus j'ai fait des recherches justement sur ce qui se passait en Acadie, puis la manière dont la lutte féministe s'est construite, j'ai quand même intégré la composante langue. Ceci, comme. Parce que je voyais, particulièrement pour les... Parce qu'il y a des femmes racisées qui sont nées en Acadie, qui sont nées au Nouveau-Brunswick, et qui sont évoluées dans des milieux ruraux, et qui en plus de ça parlent français, donc sont en situation francophone minoritaire. Puis je pense que l'intersectionnalité est porteuse dans ce sens-là pour mieux comprendre comment tu navigues. Parce qu'à ce moment-là, l'accès aux services est comme... C'est un problème, parce que tu n'as pas nécessairement accès aux services dans ta langue, mais en plus de ça, tu peux vivre du racisme aussi dans ta propre communauté. Puis, parfois, on a l'impression qu'il n'y en a pas, là, au Nouveau-Brunswick, du racisme, mais ça existe. Et puis, il y a énormément de difficultés à dénoncer ça, parce qu'on dit qu'on est un peu en dehors de ça, ou que, tu sais, on est une communauté plus petite, on se connaît plus, c'est qu'il y a moins, tu sais, on aurait moins tendance à avoir des comportements racistes, mais pourtant, il existe. Puis, tu sais, on le voit, on en entend parler. Là. À chaque année, il y a le fameux article qui parle de l'Université de Moncton, entre autres. Nous ne l'avons pas dépassé encore, mais je pense que l'intersectionnalité peut intégrer... Je crois que c'est un modèle qu'il faut qu'on accepte, qui bouge aussi, parce que le féminisme, c'est ça, c'est un mouvement. Puis, je pense que c'est ça, moi, qui m'a toujours interpellée dans le féminisme, c'est que de me dire que je pouvais prendre un peu de chaque courant aussi. Puis, pour aider justement à comprendre, à avoir une analyse plus complète de ce qui se passe. Fait que même, on n'en a pas parlé, mais même le féminisme autochtone nous apporte tellement de belles choses à voir par rapport justement au colonialisme, à différents rapports. Fait de prendre un peu tout, mais ce que je trouve essentiel, c'est de reconnaître d'où vient ce tout-là. Donc, par exemple, de reconnaître que l'intersectionnalité a des racines de l'afroféminisme. T'sais, on ne peut pas nier le comment ces féministes se sont construits, parce qu'à partir du moment où on les évacue, j'ai l'impression qu'on enlève justement la radicalité qui existait dans chaque courant, puis on prend ce qu'on aime. C'est là où...
C'est ça, donc il faut faire attention à diluer ces perspectives.
Parce que dans le fond, des courants, c'est un peu une façon de nous aider à comprendre la réalité qui nous entoure. Fait que c'est un peu... C'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Je pense que c'est pas une vérité ultime qu'on peut juste dire « Ah, telle situation, on le met, puis c'est comme ça que ça se passe. » La réalité est super complexe, puis il y a plein de facteurs qu'on peut pas vraiment mettre le doigt dessus, mais c'est vraiment des pistes, puis des façons de nous aider à comprendre.
Des étapes de l'histoire et des régions du monde aussi, finalement.
Oui.
Mais on peut peut-être passer à ton courant, Philippe, l'écoféminisme.
Oui, je vais y aller rapidement, parce que je sais qu'on veut aborder plein d'autres choses. mais en fait, dans les notes que tu nous as envoyées, Nelly, ça m'a quand même situé au niveau de l'écoféminisme. Donc, c'est un peu une extension du... Certains appellent ça le féminisme écologiste ou encore le féminisme environnemental ou environnementaliste. Ça découle un peu du féminisme radical parce qu'il y a eu comme toutes sortes de branches qui ont poussé après ça. Puis je me suis fié au manuel de résistance féministe. C'est un livre de signé par Marie-Ève Surprenant des éditions du Remis Ménage. Puis on va l'afficher sur la page dans les médias sociaux. Mais dans le fond, pour résumer assez très rapidement, l'écoféminisme, c'est qu'il y a des liens directs entre les conditions de vie des femmes et puis les conditions de l'environnement ou de la nature, du monde naturel qui nous entoure. Je vais lire un peu une petite définition. Donc, c'est comme les systèmes patriarcales qu'on a parlé, capitalistes, qui seraient responsables de l'oppression des femmes et de la destruction de l'environnement. Puis, je pense que je pensais à ça dernièrement. Je suis comme, comment est-ce qu'on peut appliquer ça au Nouveau-Brunswick? Puis, je pense que la meilleure façon de le voir, c'est vraiment la lutte, les gaz de schiste, là, qu'on parle beaucoup, là, le développement des ressources naturelles. Puis, on veut déplacer souvent les femmes autochtones de leur territoire ancestral. Puis, on a parlé beaucoup du rapport sur la violence, puis des femmes disparues auprès des femmes autochtones au Canada. Mm-hmm. Puis, c'est comme s'il y a un lien direct là, entre l'exploitation des ressources naturelles et justement cette violence qui est faite. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait ce lien-là, mais j'entends beaucoup plus de gens autour de moi qui commencent à faire ce déclic-là. Puis justement, ça l'aide peut-être avec un peu les médias sociaux parce qu'on a des caméras maintenant plus souvent. Les gens peuvent s'approprier un peu les nouvelles. Donc, il y a beaucoup de mouvements, I don't know more, etc. Mm-hmm. Là, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a plein, mais qui justement produisent leur propre contenu, leur propre vision. Puis c'est de là qu'on voit justement la violence parce que je veux pas, on a beau faire confiance aux médias, puis c'est pas, je veux pas dire ça à cause des journalistes encore, mais on le voit pas dans les médias traditionnels, à la télé, à la radio, puis c'est des violences que si étaient faites contre des femmes blanches ou qui seraient en première page du journal, mais c'est vraiment comme, tu sais, maintenant des fois on voit des vidéos qui ont été filmées par des jeunes autochtones dans un boisé éloigné où des forces policières vraiment utilisent la brutalité sous les lois adoptées par le gouvernement pour justement déplacer des gens, pour mettre des pipelines ou pour... Mm-hmm. Puis finalement, ça crée beaucoup de pollution, combien de cancers est-ce qu'ils sont décelés après dans la pollution des eaux, etc. Donc pour moi, c'est comme ça que je fais le lien. C'est très bref puis incomplet, mais je pense que c'est une bonne introduction à ce concept d'écoféminisme.
Merci, Philippe. Je ne sais pas si Lise, est-ce que tu...
Oui, c'est un courant que je connais moins, mais tu ne l'as pas nommé, mais il y a un moment donné, il y a une tendance dans ce courant-là qui était assez essentialiste aussi, qui ramenait les femmes à la nature, à la terre-mère et tout ça, qui est intéressant, mais qui allait un petit peu à l'encontre du courant radical, qui voulait sortir les femmes de cette perspective-là, essentialiste, mère, terre, et tout ça. Mais ce qui est intéressant, je pense que ça a évolué. C'était au début de ce courant-là, si je me souviens bien, et ça a évolué. Puis ça a évolué selon ta perspective dont tu as nommé Philippe, qui est intéressante. Mais aussi, ce courant-là peut peut-être nous permettre de réfléchir aux catastrophes écologiques et l'impact que ça a sur les femmes et qu'est-ce que les femmes vivent à travers ces catastrophes-là. Là. La violence,
tu parles des femmes, mais comme moi j'ajouterais, tu sais, Catherine, les populations noires, les populations marginales, c'est les premiers qui les classes sociales. Ouais. Je peux continuer, mais...
Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ces personnes-là les plus touchées encore, là, dont les femmes. Les populations les plus marginalisées. Ouais. Donc, ça peut nous permettre à réfléchir à ça. Puis, moi, je trouve ça intéressant parce que le travail social s'intéresse de plus en plus à ça. Il y a 10 ans, on n'en parlait même pas. Là, maintenant, à l'École des droits sociaux, on a un cours qui porte sur intervenir en situation en catastrophe écologique. Puis on commence à réfléchir comment on peut aider les populations marginalisées, parce que c'est elles qui se retrouvent dans les centres, qui ont moins de sous pour s'acheter des génératrices, par exemple, ou des, tu sais, ils ont moins de soutien social. Donc comment on peut intervenir auprès de ces populations-là? Alors je trouve que c'est intéressant, puis l'écoféminisme fait partie de cette tendance-là. Là.
Merci. Quelqu'un qui veut parler, je pense,
encore là, je parle un peu de mon évolution féministe, mais c'est quelque chose qui m'approche beaucoup parce que, tu sais, puis j'aimerais peut-être souligner aussi, puis Nelly, tu peux en parler de la proposition qui a été faite au regroupement hier. Moi, ça m'a vraiment touchée.
Moi aussi. Moi, je dois avouer, je n'y attendais pas du tout. Tu sais, parfois, quand tu travailles dans l'organisation, ben, tu sais, t'entends un peu les choses, tu vois un peu les choses venir. Comme la commission sur les femmes autochtones et les communautés LGBTQ de plus IA. Ça, on avait comme compris que ça allait s'en venir parce que ça avait été beaucoup occupé, mais la proposition sur l'environnement, fait, pour mettre les gens dans le contexte, on a l'Assemblée générale annuelle du regroupement a eu lieu le 15 juin. Puis, il y a vraiment eu des membres, puis je pense que c'est Simone Leblanc-Rainville, t'en parlais justement tout à l'heure, Lise, donc qui a pris le micro vraiment là pour proposer d'être beaucoup plus consciente des liens entre féminisme, donc être féministe, puis l'écologie, parce qu'au final, ben, les deux ne pouvaient pas être séparés, parce que, juste, ben, pour toutes les raisons qu'on vient de nommer. Puis il y avait également une proposition là, vraiment de le voir dans le fonctionnement de l'organisation, donc vraiment nous-mêmes, là, de peut-être pas nous en tenir juste au cahier peu imprimé, mais vraiment de trouver des autres solutions. Mais moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est justement de travailler à faire comprendre les liens entre féminisme et écologie, parce que ça, c'est vrai, on n'en entend pas parler. Ouais. Puis moi, j'avoue aussi, un peu comme Lise, c'est un courant que je découvre petit à petit, parce que, on n'a pas toutes les réponses. j'avoue, mon premier contact avait été sur l'essentialisme, justement. Puis je me disais, il y a quelque chose qui me chicotait, parce que je me disais, je me sens, parce qu'un peu comme toi, moi, c'est beaucoup passé par le féminisme radical, plus anarchiste, intersectionnel, mais... Après, c'est l'essentialisme, je me disais, là, c'est pas conforme à tout ce que j'ai appris, là. Qu'est-ce que je fais, moi, avec tout ça? Ouais. Mais en même temps, plus je lis dessus, plus je me rends compte, justement, de l'urgence climatique, de tout ce qui se passe, des décisions qui se prennent au fédéral, on les connaît, là, les dernières décisions qui sont passées, puis en même temps, d'autres décisions qui sont prises, et là-dedans, on se retrouve, est-ce qu'on peut avoir une posture féministe sans réaliser l'urgence climatique. Tu sais, c'est impossible. Est-ce qu'on est rendu à un point où il ne va pas vraiment falloir lier les deux à un moment donné?
On va faire une parenthèse, parce qu'on a mentionné essentialiste, puis on l'a un petit peu défini, là, mais c'est vraiment l'idée des femmes de retourner à la nature, mais au sens naturel. C'est quoi le rôle naturel d'une femme, d'être mère? Fait, ça revient souvent beaucoup au biologique, puis du care, puis... fait, quand on parle du courant essentialiste de l'écoféminisme, c'est de ça qu'on parle un petit peu plus. Que c'était comme, oui, mais c'est à nous à prendre soin de la nature, puis vraiment de dire comme en tant que femme. Tandis que le courant écoféministe vraiment regarde les genres.
C'est ça.
Je voulais juste faire la parenthèse.
Oui. Je crois que le plus grand débat dans les théories féministes, c'est la question d'essentialisme et du différentialisme. Puis moi, j'ai même pas réussi à la régler dans ma tête. Comment je pouvais voir ça? Puis parce que, est-ce que on est différentes? Est-ce qu'on est pareil? Est-ce qu'on est essentiellement des femmes? C'est toujours parce que quand on parlait du travail invisible, justement, du care, c'est tout ce travail-là qui est effectué par grande majorité des femmes. Ben, dans les recherches que j'ai faites, les femmes, elles aiment faire ce travail. Donc, ça les valorise. Mm-hmm. Non seulement c'est épuisant et c'est pas reconnu, mais c'est quelque chose qu'elles aiment faire, qui leur fait du bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes? Donc, tous ces débats-là, là, donc, le problème, c'est pas de vouloir offrir du care à quelqu'un. C'est le problème, c'est que c'est un travail qui n'est pas reconnu. Il n'y a pas de reconnaissance. Et de...
Moi, je suis pour dire, comme pour tout le monde, il y a eu une grosse réflexion quand on a décidé d'avoir des enfants à cause du mouvement écologiste, tu sais, de se dire, quelle sorte de monde on livre à ces enfants-là, tu sais, comme... Nous, on y croit, l'urgence climatique, le monde qu'on va livrer à nos enfants, c'est pas celui qu'on vit en ce moment. C'est un monde de crise, c'est un monde d'inondation, c'est un monde complètement différent, puis c'est pas un monde nécessairement positif. Fait que, tu sais, il y a toute cette question-là. Ouais. Puis Simone Leblanc-Rivet, c'est ça qu'elle a mentionné à la GS, c'est de dire, moi, j'ai des petits-enfants, puis j'ai peur, tu sais.
Ouais.
Fait qu'il faut, il faut. Puis en même temps, tu sais, je lis beaucoup de textes. Entre autres, il y a un bon petit traité qui s'appelle le traité de résilience locale, qui est publié chez Éco-Société. Puis c'est de dire, ben il va falloir penser la transition, tu sais, puis il va falloir... La crise, elle est inévitable. Elle va arriver, puis il faut s'adapter, tu sais. Fait qu'on pensait pas mal à ça, mais en même temps, c'est de voir la jeunesse se mobiliser en ce moment au niveau de l'urgence climatique. Puis ça, c'est, ça donne beaucoup d'espoir. Puis on se dit comme toi puis moi, qu'on est des personnes super féministes, super écologiques, comme on peut contribuer à ça, comme on y contribue déjà en tant que personne, mais on s'entend là, dans 80 ans, les chansons, qu'on soit plus là ou qu'on soit plus très militant, fait, de se dire, mais on aura ces enfants-là qui... Tu sais, fait que je pense que c'est une réflexion... Comme pour moi, c'est très réel, l'urgence climatique. Là. C'est pas juste... C'est une lutte comme ça sur laquelle il faut s'attarder. C'est comme, non, non, comme... C'est, puis, ça remet tout en question. Puis l'écoféministe aussi, c'est comme... L'hiérarchisation, est-ce que l'être humain est vraiment supérieur? Parce qu'on on dit toujours « sauvons la planète ». C'est pas sauver la planète. La planète, elle va survivre. Moi, je suis assez...
Ça fait des milliards d'années.
Qu'il y a eu des gros changements, des grands bouleversements.
C'est l'être humain qui risque de pas survivre. Nous, on pense qu'on est beaucoup plus important que d'autres choses. Pour moi, puis je veux dire, je suis vegan, comme il y a plein... Comme pour moi, c'est tout ça, c'est important d'y réfléchir, parce que quand on parle des rapports de pouvoir, là, ça en fait partie. Fait.
Est-ce que je pourrais te parler du mouvement... oui, c'est ça, le féminisme libéral. Libéral égalitaire, c'était sous le document, donc les termes du débat féministe de Nicole Van Ennis, ça se dit comme ça. Puis dites-moi si j'ai bien compris la chose, mais qui c'était ? C'est un mouvement qui est parti dans les années 60 aux États-Unis, encore une fois, surtout par des femmes blanches qui croyaient au système économique libéral, en fait. Puis, on nomme Betty Friedan. Il faut savoir qu'elles étaient, donc, qu'elles sont encore, vu que ce mouvement est encore actuel, attachées aux normes familiales, aux règles du jeu politique et à l'individualisme de la société libérale. Puis, qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est la liberté individuelle et l'égalité des droits. Elles revendiquent leur pleine participation à la société comme les hommes. Elle dénonce les lois injustes, les mentalités, des valeurs rétrogrades, qui dévalorisent les femmes dans tous les domaines de la société, donc éducation, travail, famille, politique, etc. Puis comment ce mouvement-là, donc du féminisme libéral égalitaire se manifeste, c'est en demandant des réformes pour réajuster le système aux besoins des femmes, donc c'est changer des lois discriminatoires. Et puis c'est surtout aussi, il parlait de tout ce qui est éducation, les femmes voulaient éduquer, socialiser en fait leurs enfants d'une manière différente, tout ce qui est éducation non sexiste pour changer les mentalités.
On ne remet pas en question le système patriarcal, par exemple, on ne remet pas en question le système capitaliste. Mais on va travailler à l'intérieur du système pour changer les choses.
OK.
Ouais.
Moi, j'aimerais dire comme, tu sais, on l'a souvent comparé, mais comme moi, j'ai lu Feminine Mystique, puis c'est un des livres qui m'a vraiment éveillée, là. Ouais. Je veux dire, puis c'est du féminisme libéral.
Ça, c'est l'auteur Betty Friedan.
C'est ça, exactement.
Que tu mentionnais.
Puis, je veux dire, c'est un éveil, là, que ces femmes-là. Puis, ça fait un bout, je l'ai lu, mais c'est vraiment l'idée qu'à ce moment-là, tu sais, on essayait de vendre un lave-vaisselle plus performant pour que la femme soit capable de faire des meilleures tâches à la maison. Puis, on était en train de combler ses besoins, mais elle n'était pas en train d'aller à l'université. Cette femme-là, elle avait un meilleur lave-vaisselle. Puis, plus qu'on lui vendait de choses pour faire des tâches ménagères, plus elle faisait des tâches ménagères. Puis, on peut penser aux publicités de ces années-là, là, mais la femme qui est heureuse avec son vacuum, là, de vendre cette image-là. Puis, elle a eu ce déclic-là, là, et d'autres femmes, de dire il y a quelque chose de pas correct dans cette vision ici. Là.
Absolument.
Ils ont beaucoup apporté. Je pense qu'il ne faut pas.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Dans les manuels scolaires. Dans les manuels scolaires, par exemple. C'est elles qui ont revu les manuels scolaires, qui ont critiqué les manuels scolaires, qui étaient. Donc, toute la socialisation genrée. On ne voyait pas les femmes, on voyait les femmes. Les rôles étaient très, très spécifiques dans ces. Puis, ils ont questionné ça, ils ont fait transformer les manuels scolaires. Elles ont fait un travail, vraiment important.
Absolument.
Oui. C'est, je dirais qu'en Acadie, vous parlez de l'Acadie tantôt, c'est le mouvement qui a été le plus... Ben c'est le mouvement qui a été présent, puis qui est encore présent aujourd'hui, je crois, c'est les féministes libérales. On s'en va, là, il y a une certaine tendance un petit peu radicale qui est intéressante, puis même matérialiste, je dirais, mais ce sont elles, tous les mouvements, les Dames d'Acadie, les femmes francophones du Nouveau-Brunswick, ce sont des femmes qui revendiquaient, qui surveillaient les politiques sociales. On les appelle les gardiennes des politiques sociales. Elles regardaient ce qui se passait dans la société pour les transformer, pour faire en sorte que ça affecte moins les femmes, ou en tout cas de diminuer les inégalités à travers ces politiques-là.
Est-ce que ça manque un peu d'intersectionnalité, justement?
Je pense que c'est une critique qu'on peut faire à la
psychologie. C'est juste pour prendre le courant, ça manque d'intersectionnalité, puis on ne remet pas en cause le système. Là. Non, dire, on tente de réparer ce qui se passe.
C'est ça. Okay. Mais il n'y a pas de volonté de changer.
De changement, oui. C'est vraiment social,
Le changement s'effectue à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est juste de dire ça, mais on parle beaucoup plus de réforme. On est beaucoup plus dans la réforme que dans le fait de rétablir, peut-être. Puis là, je me base beaucoup sur ce que Nancy Fraser, dont c'est une autre autrice que je conseille fortement aux gens, Justice sociale, Nancy Fraser. Parce qu'elle illustre bien les deux façons qu'on peut. Donc, soit justement, comme Geneviève le mentionnait, là, d'avoir des façons, des solutions qui vont réparer les choses, donc, ou des solutions qui vont corriger.
Et voilà, vous avez écouté notre deuxième épisode du podcast On n'a pas toutes les réponses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, soit en entier, soit par segment. On serait super intéressés et curieux d'avoir vos commentaires ou vos suggestions. Donc vous pouvez nous écrire au courriel suivant. Podcast, onptlr@gmail.com. N'hésitez vraiment pas, ça nous fera plaisir d'avoir vos courriels. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook et un compte Instagram au nom suivant. Donc c'est simple, c'est ONPTLR. Si vous n'avez pas encore écouté notre premier épisode sur la colère, l'oppression, les privilèges et les remises en question, on vous invite à le faire. Nos deux épisodes sont sur de nombreuses plateformes numériques comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud et bien d'autres. Merci encore et à bientôt pour le troisième épisode.